Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce tout nouveau rendez-vous pour le carnet de région, l'actualité avec différentes radios associatives qui vous proposent différents sujets au cœur de l'actualité. Cette semaine, eh bien, c'est le sommaire et c'est avec vous, Lauriane Avard. Lauriane, bonjour.
Bonjour Cédric, bonjour à tous. La fête de l'Europe à Alès, l'occasion de se pencher sur les projets de traités européens. Radio Grille Ouverte revient sur le TAFTA avec le député européen Franck Proust. Opération recyclage à Montpellier, une collecte mobile testée au cœur du centre-ville. Reportage de RCF Hérault. Quatrième édition du festival d'art contemporain in situ, Radio Aviva nous parle du lancement dans la région. Focus sur la garantie jeune avec RCF Pays d'Aude, dispositif expérimental pour rapprocher les jeunes sans diplôme du monde du travail. Développement durable, culture, économie, c'est l'heure du bilan pour la communauté de communes du Clermontais avec Radio Pays d'Hérault. Sec, fruité, vif, moelleux, les Floréales du vin lancent leur troisième édition. Pour clore ce carnet de région, Radio Lodef nous invite à la dégustation.
Carnet de région.
Hérault,
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.
La fête de l'Europe, manifestation organisée la semaine dernière à Alès, Lauriane.
Un événement inauguré par le député européen Franck Proust, affilié à la famille politique de droite au Parlement. Franck Proust, également membre de la commission chargée du commerce international, commission qui suit de près le TAFTA, le partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements. Le député Franck Proust, lui, globalement favorable à ce traité transatlantique, mais pour lui, il y a des lignes rouges à ne pas franchir.
On essaye de travailler sur cet accord transatlantique avec deux lignes directrices, un accord qui protège à la fois nos entreprises, mais également nos concitoyens. On reste persuadé, en ayant rencontré un bon nombre de chefs d'entreprise issus de la plupart des syndicats patronaux, du MEDEF, de la CGPME, que cet accord peut booster notre économie entre les deux principales puissances au monde, puisque l'Europe et les États-Unis, quand on regarde le marché, c'est le premier marché mondial. Et si on avait à ne retenir qu'un seul axe majeur, c'est que cet accord pourrait déboucher notamment sur la mise en place de normes communes américano-européennes. Et bien évidemment, cette norme commune s'imposerait par elle-même au monde entier. Et on sait très bien, notamment dans le domaine industriel, regardez la problématique, par exemple, du véhicule Renault avec Zoé. Quand vous avez des problématiques de normes, c'est un handicap certain en termes de compétitivité. Donc aujourd'hui, avoir une norme américano-européenne qui s'imposerait au monde, c'est 25% de compétitivité en plus. Le risque, c'est que si nous n'arrivons pas, par exemple, à concrétiser ce type d'accord, eh bien, ce soit les Chinois, les Indiens, voire même les Américains avec un autre continent qui s'associent et qui nous pénaliseraient. Par contre, je dis, et c'est pour ça que nous avons voté favorablement, puisque j'avais déposé pratiquement 60 amendements, ils ont été en grande majorité repris. On a des lignes rouges. C'est-à-dire qu'on attend la réciprocité sur les marchés publics. On sait très bien qu'il n'y a pas plus protecteur que les États-Unis avec le Buy American Act. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. C'est-à-dire que si les Américains viennent chez nous, on doit être en capacité d'aller chez eux. On a aussi la reconnaissance, et vous êtes concernés ici à Alès, de nos IGP, les indicateurs géographiques protégés. Le miel des Cévennes, les Américains ne doivent pas produire du miel des Cévennes aux États-Unis. Je veux dire, pour nous, quand je défends nos IGP, je défends le secteur agricole, mais c'est également un patrimoine culturel, économique. Donc ça aussi, c'est très important. On a la problématique des normes. Vous savez que parfois, les Américains ont des normes sur des secteurs plus élevés. Sur d'autres secteurs, ce sont les Européens. On a fait une campagne aux dernières européennes où j'avais des adversaires qui ne parlaient que du bœuf aux hormones ou du poulet chloré. Bon, ça, c'est inenvisageable. Donc moi, je suis pour un alignement sur la norme la plus élevée. Donc de temps en temps, ça sera les Américains, de temps en temps, ça sera les Européens. Il faut que vos auditeurs se rendent compte qu'il y a des termes comme discrimination, expropriation, qui dans des pays ne sont pas reconnus. Donc vous imaginez, vous appelez Alstom, Bouygues, ce que vous voulez, même la petite PME qui s'implante dans l'Asie du Sud-Est ou en Orient ou autre, et qui, parce qu'il y a un changement de régime politique, est obligée de partir sans droit ni titre. Donc on est bien obligé d'aller chercher un outil. Il n'est pas question de remettre en cause la légitimité des États, mais il faut aussi protéger nos investisseurs. Donc on a un travail de fond à faire.
Selon Franck Pust, les négociations vont être plus longues que prévu. Alors pour lui, les citoyens européens n'ont pas à craindre les éventuelles menaces de ce traité.
Il ne faut pas s'exciter, on a le temps devant nous. Et d'ailleurs, c'est une philosophie, il faut prendre le temps et ne pas privilégier la rapidité au détriment de la qualité. À mon avis, rien ne se passera avant la fin du mandat de M. Obama. On a devant nous 3-4 ans pour aboutir à un outil qui me paraît important parce qu'on voit très bien que les parts de marché, la croissance en Europe stagne. Donc si on veut qu'il y ait un peu de croissance, il faut aller chercher les parts de marché à l'extérieur. Et ce que je dis pour les États-Unis, c'est vrai pour le Vietnam, c'est vrai pour la Chine, pour tout un tas de domaines. On voit très bien que, par exemple, Peugeot, Citroën ou autres, aujourd'hui, si ces entreprises arrivent à conforter leurs résultats, c'est grâce à l'exportation. Ce n'est pas sur la demande européenne. Donc voilà, on est très vigilants. Et je l'ai dit très clairement aussi, si je n'arrive pas à avoir gain de cause sur les 3-4 lignes rouges dont je vous ai parlé, je voterai contre le TTIP. Mais aujourd'hui, dire qu'on est contre, hormis avoir une position doctrinale, ça me fait rire parce qu'on fait comme s'il était en place. Aujourd'hui, on ne travaille que sur des hypothèses. J'ai l'impression que parfois on donne au TTIP un passé alors qu'il n'a pas de passif. Je veux dire, on ne travaille que sur des hypothèses.
Franck Proust, député européen, membre de la famille politique de droite au Parlement européen. C'était un sujet réalisé par Laurent Keller de Radio Grille Ouverte.
Opération recyclage à Montpellier.
Piles, ampoules, cartouches d'encre, une collecte mobile a sillonné le centre-ville jusqu'au 5 juin. L'occasion de marquer la semaine du développement durable, mais surtout une phase test pour peut-être installer définitivement cette collecte mobile spéciale piéton. Un concept imaginé par Aymar de Serroux, gérant de la société Cepra Environnement.
Eh bien, on arrive le matin avec une remorque qui fait moins de 3,5 tonnes, qui est tirée par un véhicule. On s'installe sur une place comme ici, vous voyez que finalement il ne faut pas beaucoup de place. Et en 5 minutes, on se met en place, c'est des tiroirs, tout est automatisé manuellement, mais automatisé. Un des principes majeurs, c'est que finalement elle se pose sur le sol grâce à des essieux escamotables, ce qui donne une stabilité parfaite pour les personnes âgées en particulier, ça les rassure de pas que ça ne soit pas très haut. Il faut toujours un ou deux agents pour expliquer la démarche, parce que les gens ont besoin d'être assistés. Par contre, rester toute une journée, je ne suis pas forcément pour, parce que finalement, vous risquez d'avoir des bacs pleins et vous n'êtes plus dans le développement durable parce que vous allez être obligé de faire des allers-retours. Donc à mon avis, il vaut mieux régulariser la venue et rester 3-4 heures sur un emplacement, mais pas plus longtemps. Alors pour l'instant, j'ai mis gracieusement à disposition la déchetterie pendant une semaine pour la ville. Et on tourne depuis samedi matin jusqu'à vendredi matin. Après, eh bien écoutez, c'est au bon vouloir de monsieur le maire président et des services. Mais a priori, vu le résultat déjà dès le premier jour, on devrait s'orienter vers une pérennité.
Les ampoules. Voilà les piles.
Ouais, les ampoules, les ampoules.
C'est pour des barras, hein.
Aymar de Serroux, gérant de la société Cepra Environnement, sa collecte mobile déjà adoptée par la ville de Paris sera livrée en juillet. Il espère le même dénouement à Montpellier. C'était un sujet de RCF Héros.
Et c'est parti pour la 4e édition du festival In Situ qui vient d'être lancé.
11 sites dans 4 départements de la région investis par l'art contemporain jusqu'au 20 septembre. Ces lieux classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques accueilleront les œuvres d'artistes plasticiens. Parmi les nouveautés, la Bombouzerie d'Anduze dans le Gard accueillera pour la première fois le festival. Porté par l'association Le Passe-Muraille, le Languedoc-Roussillon a initié cette opération. On en parle avec Josiane Colleret, vice-présidente de la région déléguée à la culture.
Le vrai objectif, c'est de, à la fois faire découvrir du patrimoine qu'on ne connaît pas forcément. Alors ça s'adresse aux gens de la région, mais ça s'adresse aussi aux touristes. Et des lieux patrimoniaux dans lesquels on fait parler des œuvres d'art plastique, d'art contemporain. Et tout ça fait que voilà, ça fait parler, ça donne de l'échange. Vous savez, les touristes en particulier, la deuxième raison qui fait qu'ils viennent chez nous, c'est le patrimoine. Là, on leur donne un plus, le patrimoine, plus l'œuvre artistique, et en général d'artistes extrêmement renommés, internationalement d'ailleurs.
Le patrimoine plus la culture. Comment expliquer cet engagement de la région pour l'art contemporain ?
Tout simplement, on est au 21e siècle et je pense que effectivement la jeunesse s'intéresse de plus en plus à l'art contemporain. Les gens aussi d'ailleurs, hein, quoi qu'ils en disent, c'est vrai qu'il y a certaines œuvres qui plaisent pas, il y a beaucoup de critiques. Mais c'est quoi l'essentiel? C'est que ça interpelle cette interpellation permet d'avoir des échanges et finalement, ça donne à voir du monde dans lequel on vit au présent et à la fois en s'appuyant sur le passé.
Ça fait partie aussi de l'héritage de Georges Frêche.
Ah, ça, c'est clair. C'est Georges Frêche qui disait, en gros, qu'il n'était pas un féru de l'art contemporain, mais c'était, comme vous le savez, un grand anticipateur. Et donc, il a vraiment engagé le budget de la région sur cette question d'art contemporain et de patrimoine, parce que c'était un homme qui adorait les pierres. Et puis, voilà, il faut croire que le visionnaire qu'on décrit était bien celui-là, puisque finalement, de deux ou trois lieux, et avec deux ou trois artistes, on est passé à 11 sites et 10 artistes, ce qui est absolument considérable. Et j'espère qu'on ne sera pas trop victime de ce succès, tout en le souhaitant en même temps.
Est-ce que l'année prochaine, ce in situ sera développé dans les 13 départements de la Grande Région?
Ah, j'aimerais beaucoup. Après, il faut nous laisser le temps de mettre en place cette Grande Région, de discuter avec nos homologues de Toulouse. Dans la mesure où, si vous voulez, ça fait partie du tourisme culturel, c'est très important, c'est vraiment un élément très important. On verra. Moi, je me vois pas dans une grande région sans qu'on développe la culture et le patrimoine. Ça me paraît complètement impossible.
Josiane Colleret, vice-présidente de la région déléguée à la culture. Le festival In Situ s'étend jusqu'au 20 septembre. Programme complet sur patrimoine et arts contemporains.com. Un sujet proposé par Radio Aviva de Montpellier.
Direction le département de l'Aude où les promotions garanties jeunes se succèdent, Lauriane.
Un dispositif mis en place depuis 2013 à la mission locale d'insertion du bassin carcassonnais. Le directeur adjoint Terence Télandier a participé au lancement de cette formation expérimentale. Une expérience aujourd'hui plébiscitée par les acteurs sociaux et les jeunes bénéficiaires.
La mission locale de Carcassonne a été choisie comme site prototype pour la construction de cet accompagnement garanti jeune. Cet accompagnement a une double vocation, donc d'accompagner les jeunes de façon intensive pour les faire parvenir à une autonomie sociale et professionnelle. C'est un levier pour qu'ils prennent confiance en eux, malgré les difficultés scolaires ou personnelles, et aussi multiplier les situations professionnelles et valoriser les compétences de ces jeunes. L'immersion en travail, en entreprise, d'ailleurs, est essentielle dans cet accompagnement. Donc c'est un dispositif nouveau, en cours d'expérimentation au niveau national. C'est un accompagnement qui dure sur une année. Pour pouvoir intégrer cet accompagnement garanti jeune, il n'y a pas forcément de demande de niveau scolaire ou de cursus particulier. Il faut avant tout être motivé à vouloir travailler, dans un premier temps, et avoir une précarité financière, principalement, ou précarité sociale ou familiale. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être orienté par des partenaires donc, comme la mission locale, Pôle emploi, mais aussi des services comme la PJJ ou les centres sociaux, ainsi que les centres CIS. Que nous sommes réunis sous forme de commission, présidée par le préfet et dirigée par les services de la direction du travail. Et donc, lors de ces commissions, sont présentés les dossiers de candidature des jeunes souhaitant intégrer cet accompagnement. Donc, de 10 territoires, on devrait passer à une cinquantaine de territoires, soit un objectif d'intégration de 50 000 jeunes pour l'année 2015. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau territoire local, sur la mission locale du bassin carcassonnais, c'est un dispositif qui fait ses preuves, puisque des jeunes partant parfois de loin de par leurs difficultés arrivent à accéder à une situation professionnelle grâce à cet accompagnement et à leur motivation, bien entendu. À ce jour, nous sommes à 19 promotions, donc on est à peu près à 260 jeunes qui ont intégré à ce jour cet accompagnement.
Un sujet réalisé par Jérôme Bozon et Nathalie Dessos de RCF Pays d'Aude.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est le carnet de région, toute l'actualité en région Languedoc-Roussillon. Avec vous, Lauriane Avard, direction le Clermontais.
L'heure du bilan pour la communauté de communes du Clermontais. À l'ordre du jour, développement culturel, projet de territoire, mutualisation des services ou encore volet économique. 1 million d'euros a été amputé à la communauté de communes. Une coupe budgétaire qui nécessite de faire des économies. Mais par quels moyens? La réponse de Jean-Claude Lacroix, président de la communauté de communes.
Tous les moyens. Le premier moyen, la première clé, depuis 2 ans, c'est le deuxième budget comme ça, où il y a recherche d'économies en interne. C'est-à-dire, là où on dépensait trop, ça a été raboté. Là où on dépensait normalement, en essayant, par des petits bouts, d'améliorer les choses, on dépense moins. Donc on fait des économies directes de centaines de milliers d'euros. Service ordures ménagères, 120 000 euros que de ramassage des ordures. Que ce service-là, on devrait arriver à une centaine de milliers d'euros. C'est déjà pas mal.
Sans impacter la qualité au niveau des services.
Absolument. Rien ne change. Le citoyen ne se rend compte de rien, absolument. Et le service est exactement la même qualité. Le deuxième volet qui va être payant mais avec un petit décalage, c'est la mutualisation, c'est-à-dire que les communes entre elles peuvent travailler, que nous pouvons gérer certaines choses pour un plus grand nombre, ce qui veut dire des économies. Et évidemment là aussi, je parlais de la restauration scolaire, on peut parler de l'urbanisme. Par exemple, la communauté de communes pilote 16 PLU. Si chaque commune avait dû piloter son propre PLU toute seule, ça coûte très cher, un PLU. La révision d'un PLU coûte trop cher, très cher.
Combien ?
Je ne sais pas, pour une commune comme Seyras, par exemple, le coût d'une révision de PLU est de 30 000 euros. Serait, puisqu'on ne le fait pas, mais serait de 30 000 euros. Exemple concret, si je reste sur Seyras, et c'est bien parce que c'est une commune qui ne le fera pas, mais au lieu de payer 30 000 euros seul, ça pourrait arriver à 20 000 euros à 16. Donc, économie pour les communes, là, évidemment, pour les communes.
Sur le volet de développement durable, le bilan de l'agenda 21 reste pour le président très moyen.
Il y a une perception de l'agenda 21, ce que je disais un peu tout à l'heure, où les gens pensent que c'est que lié à la nature, lié au vert. Donc, les communes ont travaillé là-dessus, la mienne, tout le monde, à des rythmes différents, ce qui est normal, grosse commune, petite commune, ça ne peut pas être pareil. Mais ce que l'on se rend compte, le bilan n'est pas complètement bouclé, là on nous le présente que la semaine prochaine, mais on se rend compte qu'il y a pas mal de pans de murs liés au social, liés à l'économie, liés à la technique, au matériel, qui ne sont pas abordés ni pris en compte dans ce cadre Agenda 21 par rapport aux communes. Donc je crois que le défi à venir est à ce niveau-là, et surtout au niveau du social, c'est-à-dire la gestion des salariés, à la bonne gestion des salariés.
Et donc du coup, bilan bouclé d'ici la semaine prochaine, quelle est la prochaine étape ?
En prochaine étape, c'est instantané, c'est-à-dire que dès la rentrée, puisqu'il y a l'été qui va passer où les choses se calment un peu, mais dès la rentrée, nouvelle piste, nouvelle orientation, nouveau soutien à des opérations un peu atypiques ou importantes sur le territoire. Ça continue là, ça continue.
Jean-Claude Lacroix, président de la communauté de communes du Clermontais, au micro de Jordi Oumira, Tom Zach de Radio Pays d'Hérault.
Pour clore ce carnet de région, terminons par de la dégustation en pays cœur d'Hérault, ce qui va bien faire plaisir à nos papilles gustatives avec Radio Lodève.
Balade gourmande, dégustation dans les vignobles, autant d'occasions pour découvrir les spécialités gastronomiques et les vins du cœur d'Hérault. Voilà le principe des Floréales du vin, une troisième édition étendue durant toute l'année. La manifestation a été expliquée au professionnels lors d'un éduc tour à travers plusieurs caves et caveaux, notamment au domaine de la Dourbie à Canet, où Radio Lodève a croisé le chemin d'Eddy Jarreau, responsable de la mission tourisme au pays Cœur d'Hérault.
Donc là, l'objectif, c'était de leur faire découvrir trois domaines viticoles du territoire, du pays Cœur d'Hérault, accompagnés par un sommelier conseil des Cotons du Languedoc, pour leur donner un petit peu les clés pour pouvoir sélectionner, choisir et parler justement des vins du pays Cœur d'Hérault. Donc on a une quinzaine de restaurateurs qui sont présents, trois domaines viticoles et puis nos différents partenaires des offices de tourisme. Alors donc on a commencé par la cave coopérative de Saint-Saturnin, donc voilà, avec un premier atelier dégustation et puis un cours un peu théorique sur les différentes appellations, les terroirs, les AOP, les IGP du pays Cœur d'Hérault. Ensuite on a été au Clos du Cerf, donc à Saint-Jean-de-la-Blaquière, donc une exploitation en terrasse du Larzac, en bio, voilà, avec une dégustation progressive également de leur vin sur vraiment un autre territoire qui était complémentaire avec le premier. Et donc là, pour terminer, le domaine de la Dourbie à Canet.
Voilà, et puis ce sera l'occasion de parler des Floréales du vin 2015.
Alors on est sur une nouvelle formule. En 2013 et 2014, on était vraiment sur un événementiel de date à date. C'était sur 3 semaines au mois d'avril. Cette année, on est passé sur une forme club. En fait, on est sur une valorisation toute l'année, avec un aspect plus formation, accompagnement, donc pour aider justement les restaurateurs à mieux parler des vins. Donc dans le cadre de cet éduc tour, on aura d'autres événements un petit peu conviviaux, mais aussi de formation comme ça. Et ensuite, pour les visiteurs, les habitants, le grand public, un programme d'événements et d'animations autour du vin tout au long de l'année, qui vient de débuter. La première animation était à la Famourette à Agnan. Donc on avait une dégustation des vins du Mas du Puntil. Et là, en fait, donc sur le site internet des Floréales du Vin, donc www.lesfloréalesduvin.com, on retrouve l'ensemble du programme d'animation. Jusque donc tout cet été, au mois de juin, là on a beaucoup d'événements, juillet, août et jusqu'au mois de novembre, avec deux aspects, donc des événements organisés par les restaurateurs et puis également les viticulteurs, les vignerons qui ouvrent leurs portes avec un calendrier des caveaux ouverts le week-end. Donc que de mieux que d'associer les restaurateurs et les vignerons qui travaillent ensemble mais se rencontrent pas forcément. Donc on a voulu le faire via un club avec des rencontres un petit peu conviviales, mais avec toujours un objectif, c'est que les restaurateurs soient les ambassadeurs du vin du pays Cœur d'Hérault, et également que les vignerons puissent aussi mieux connaître les restaurateurs, mais tout ça pour au final valoriser auprès des visiteurs qui viennent sur notre territoire cette gastronomie, ce patrimoine un peu immatériel qu'on trouve sur le territoire.
Un reportage réalisé par Alain Mendez de Radio Lodève.
Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce carnet de région. Merci à vous, Lauriane, pour nous avoir présenté cette actualité en région Languedoc-Roussillon.
Merci à vous, Cédric.
Et puis, prochain retour du carnet de région, c'est bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci à toutes les radios qui ont participé à l'élaboration de ce magazine d'actualité en région. Passez toutes et tous un très bon week-end.